comme nous sommes un peu en altitude au-dessus des boucles de la Seine et qu'on voit devant nous la Seine scintiller, immobile, on dirait presque qu'elle ne court pas dans le soir, je voudrais vous parler précisément d'un autre soir, le soir où cet étonnant château où nous sommes et qui s'appelle la Roche-Guyon s'est transformé en une sorte de burg rhénan. Un fleuve recouvrant l'autre dans un songe assez absurde, mais à la fin, passablement honorable. C'était en 1944, quand l'état-major de Rommel occupait l'ancien donjon de la Rochefoucauld. Et c'est ici que, le 24 juin, ou le 23 juin, Ernst Jünger a lu à quelques officiers réfractaires comme lui au nazisme et qui devaient être pour la plupart compromis dans l'attentat de Stauffenberg, un petit livre intitulé « La paix ». Jünger, lui, avait choisi la désertion intérieure, et le régime nazi le ménagea jusqu'à la fin en voyant tout de même son fils aîné se faire tuer dans les carrières de Carrare après qu'il ait tenu des propos anti-nazis. Dans un texte saisissant, Julien Gracq, qui fut un grand admirateur des Falaises de marbre, l'un des grands livres de Jünger, a expliqué cet auteur par l'acceptation, par une acceptation d'une nature particulière et entièrement dépourvue de veulerie. Hannah Arendt lui a également rendu justice en évoquant à propos de lui l'un des exemples, disait-elle, les plus nets, de la recherche de l'intégrité personnelle dans un temps et dans un pays où tous les repères, individuels et collectifs, avaient été effacés. Mais au fond, pour moi, c'est Rinaldi qui s'est approché le plus de la vérité de ce caractère, si tant est que ce soit possible pour celui de Jünger, comme pour tous les caractères. Commentant les journaux parisiens, Rinaldi y a montré un homme qui n'a pour finir d'autre recours que la littérature pour tenir à distance à la fois ce qu'il aime et ce qu'il déteste. Le résultat, écrit Rinaldi, et prodigieux d'étrangeté. Jünger a aimé l'éclat des armes et l'a vu disparaître dans la guerre industrielle et le massacre de masse. Il est passé des orages d'acier à la chasse aux cicindelles, dans un équilibre instable où la dépression ne l'a pas épargné. Quelque chose en lui résistait à la fois aux réquisitions de son temps, de son pays, et peut-être même des réquisitions de sa propre conscience. Pendant la guerre, il lisait, on le voit dans le journal parisien, la Bible sans y croire, et plus tard, ayant abjuré les folies politiques de son jeune âge, il n'attendait le salut que d'un christianisme impossible, à l'heure de la technique et du matérialisme. Chez Jünger, au fond, seul le spectacle de la nature offre, malgré sa cruauté, une consolation sans mélange. Dans un très beau livre, Bernard Maris, qui a été assassiné, on s'en souvient, à Charlie Hebdo par des tueurs islamistes, a opposé avec une grande délicatesse la figure de Jünger à celle de ce Maurice Genevoix dont nous avons parlé il y a quelques semaines. Le temps les a rapprochés. Les journaux de la Seconde Guerre sont ceux de la perte d'à peu près toutes les illusions. À les lire, on ressent pourtant, et bien qu'ils diffusent la lueur consolatrice d'une sensibilité morale toujours en éveil, une sorte de gêne. Ainsi par exemple, lorsqu'il raconte que passant près de la Madeleine, il voit pour la première fois l'étoile jaune et la salue, il écrit « J'ai toujours salué l'étoile ». C'est comme un souvenir en effet du vieux monde de l'honneur, à jamais disparu. Mais ce n'est que cela, et la disproportion des choses l'a sûrement frappé. Il ne s'est guère justifié là-dessus. Il s'en est tiré, si je puis dire, comme Rinaldi l'avait vu, en écrivant, l'œil fixé sur une boussole personnelle qui marquait des directions imprévues. Si vous me permettez une confidence, je vous raconterai comment je lui ai directement posé la question avec l'audace de ceux qui n'ont été affrontés à aucune circonstance historique difficile. C'était il y a une trentaine d'années peut-être, Christian Bourgois m'avait présenté à lui. Nous sommes vus chez Bourgois, puis dans Paris lorsqu'il y venait. Il avait alors près de 100 ans. Un jour, je lui ai demandé, parce que c'était l'anniversaire de l'insurrection du ghetto de Varsovie, comment il pensait à présent à cet uniforme de la Wehrmacht qu'il avait porté, et qui n'est sûrement pas, les études historiques le montrent, demeuré sans tache. Il a réfléchi, puis il m'a répondu, le visage fermé, énigmatique, citant je crois Spinoza, mais sans le dire, « Le remords est une seconde faute ». Je dois dire qu'il était parfois drôle. Racontant les visites que lui a faites le président Mitterrand et sur lesquelles il s'interrogeait tant ils avaient peu de choses à se dire. À la fin, disait-il, il avait compris que Mitterrand était seulement venu chercher près de lui le secret de l'immortalité. Alors, il le lui avait donné, lui expliquant que le secret était assez simple, qu'il avait pris toute sa vie un bain froid tôt le matin et cessé toute activité politique à l'âge de 25 ans, et Jünger de sourire, il n'est jamais revenu me voir. Je parlais de gêne à propos de l'étoile. On ressent la même gêne à propos de ce petit livre vaguement subversif, celui qui a été lu ici, dans le château de la Roche-Guyon, « La paix », au moment du débarquement. Rommel aurait déclaré, dit-on, et c'est Jünger lui-même qui le mentionne, « C'est un texte avec lequel on peut travailler ». Jünger jugeait que Rommel était le seul qui aurait pu mettre fin à la guerre, le seul qui avait un prestige suffisant auprès de la population. Et on sait que Rommel devait être forcé au suicide après l'échec du complot de Stauffenberg. Mais il n'en est pas moins frappant que ce désir de paix, chez Rommel, comme d'ailleurs chez un certain nombre de ses conjurés, comme dans l'ouvrage de Junger, que ce désir de paix ne se fonde pas sur le crime contre l'humanité, sur lequel Junger avait eu pourtant des pages sans équivoque. Il en avait vu très tôt d'ailleurs les signes avant-coureurs, démissionnant par exemple de l'association des anciens de son régiment auquel il était très attaché lorsque les Juifs en avaient été exclus en 1934. Mais il n'en reste pas moins frappant pour nous maintenant que ce désir de paix ne s'exprime qu'au moment où la défaite de l'Allemagne paraît certaine, si bien que ce que ses conjurés paraissent reprocher à Hitler, c'est autant le crime que la défaite nationale. Et cette incertitude est aussi la marque de ce nihilisme, que pourtant Junger avait su regarder très tôt en face pour le condamner. Puisque son premier journal s'appelle « Jardins et routes », je voudrais dire maintenant un mot de ce jardin qui s'étend devant nous en contrebas, au-dessus de la Seine. C'est un jardin potager qui est à la fois ornemental et utilitaire. Junger est resté toute sa vie un amateur de jardin. Du haut du château où nous sommes, on voit ce jardin géométrique comme posé au bord d'un grand canal paisible. Mais ce canal est la Seine. Le contraste est fort entre ce château militaire avec ce qu'il charrie de hasard et de violence et la paix si ordonnée d'un espace voué au regard et à la guérison. Ce vent qui souffle en haut, là où nous sommes, ne doit pas souffler en bas et l'on aimerait descendre pour y trouver enfin un refuge. Mais s'il est un refuge pour le voyageur, le jardin n'en est pas un pour le jardinier. La terre console, mais elle résiste. On se blesse les mains, on coupe, on émonde. C'est une construction au fil du temps, et parce que c'est une construction au fil du temps, on voit bien que le jardin est une métaphore de la vie. L'essentiel du travail reste invisible. Le jardinier travaille dans l'invisible, dans ce qui adviendra, dans ce que peut-être il ne verra pas et que ses successeurs verront. On peut s'égarer lorsqu'on est jardinier, avant de voir. Voici, écrit Hugues de Miramar dans son jardin, que je suis devenu à moi-même lourd, comparable à de la boue, à de la poussière, à de la cendre. Et nous vivons en jardinier dans l'espoir d'être rendus meilleurs et peut-être de bâtir une société plus juste. Le rêve personnel et le rêve politique se mélangent dans le jardin. Hommes et pays, nous sommes à nous-mêmes, non seulement le jardinier, mais notre propre jardin. Et peut-être au fond est-ce là l'essentiel. Non dans la perfection toujours dérobée, non dans la guérison attendue des plantes et des fleurs, mais dans cette activité sans relâche où nous devenons ce que nous sommes.